love my superwoman deep down in my heart. You see, she's the only one that can put a hand on my battery, make my motor start. Superwoman, superwoman. Mm.
Trop nombreux sont ceux qui ont oublié le passé. L'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser? Le monde, une spirale où les mêmes erreurs sont retracées. À force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés. Nous parlent que de profit, la condition de l'homme effacée. Mondialisation et concurrence sont leur unique phrasée. Les peuples unitairement écrasés, la création menacée. Multinationales et croissances ont tracé leur route sur nos libertés. Ils ont juré, craché, créé un entrave à la leur.
Parce qu'on est seul, que eux, leur boulot, c'est d'être dans l'opposition. Elle est où l'opposition? C'est nous l'opposition.
Eh bien bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui écoutent Radio Campus. On va être un peu à la bourre ce soir, là Jean-Jacques vient juste d'arriver dans les studios. Sur le plateau, bon, on a déjà Pierre-Yves. Hein, de,
bonjour.
Voilà, qui est fidèle au poste. Pour ce qui est du représentant de l'orga du PC et du PG, c'est pareil, hein, je pense qu'ils sont perdus quelque part dans la nature. Jean-Jacques est en train de déboucler tranquillement son cartable. Et en attendant, donc, pour vous faire patienter, on va vous passer une petite musique. Un salut à toi des Berruriers Noirs.
Salut à la jeune garde rouge, salut à toi le peuple corse, salut aux filles du Crétien, salut
à l'iguana, Vachiri. Salut à Lorraine et Harry. Salut à toi, Fosse Nomad. Salut à tous les Kamawas. Salut à toutes les Vertigoles. Salut aussi à Yuri Wilder. Salut à toi, l'handicapé. Salut, connecte du monde entier.
Eh oui, c'est bien, mais que fait la gauche? Finalement, on va réussir à commencer plus ou moins en temps et en heure. Mais que fait la gauche? C'est tous les jeudis en alternance avec Politphilo sur 106,6. Alors, l'animateur est là, les invités sont presque là. On va pouvoir se poser la question. Eh bien, la question qu'on s'est posée longtemps dans cette émission et longtemps dans d'autres émissions de Radio Campus. Vous vous souvenez bien, chers auditeurs, chères auditrices fidèles, mais que fait la gauche n'a pas failli à ses missions depuis des mois d'informer, de motiver, de réfléchir à des stratégies de mobilisation contre la réforme des retraites. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes le 18, 5 jours avant la journée du 23, on peut bien entendu considérer que cette victoire n'a pas été au rendez-vous. Mais alors, quelles conséquences cela a-t-il? Certains voudraient bien sûr que ce soit une déroute. Seulement, ceux-ci restent bien prudents en ce moment. Même Nicolas Sarkozy s'est gardé de crier victoire. Et par contre, d'autres vont répéter à foison, comme par auto-persuasion, que non, nous n'avons pas perdu. Mais qu'avons-nous perdu? Rien, juste, sur la réforme des retraites, 2 ans de cotisation, des baisses de salaire. Mais la combativité était forte, la classe ouvrière a pu démontrer sa vaillance, des liens entre militants se sont consolidés, etc. On n'a pas perdu. D'ailleurs, on a même gagné, disons. On a gagné moralement. Bon, à ce petit jeu de la méthode Coué, on peut vite déraper à ne plus voir qu'un chat est un chat et pas une avancée sociale considérable. Mais on perd surtout le nécessaire esprit critique pour avancer et ne plus reproduire inlassablement les mêmes erreurs. Alors, dans cette émission, eh bien, on a envie de se poser les choses objectivement, sans gloriole ni défaitisme exagéré. Je pose tout de suite la question à nos auditeurs avant de les présenter, à nos invités avant de les présenter même. Eh bien, où en est-on? Où en est-on aujourd'hui? Le 23 dans 5 jours, d'accord, mais objectivement, qu'est-ce qu'on peut considérer dans... Comment peut-on considérer la situation? Voilà, donc on était avec Pierre-Yves qui est arrivé en premier. Pierre-Yves des Alternatifs, bonjour.
Bonjour.
Christian du NPA, bonjour.
Bonjour.
Hugo du Parti de Gauche.
Bonsoir.
Alors, qui veut se lancer dans une réaction par rapport à cette introduction que je viens de faire?
Je veux bien commencer. Bon, c'est vrai qu'il y a un petit goût de défaite, mais on peut peut-être regarder les choses un peu autrement. Disons qu'on a connu un mouvement d'une puissance exceptionnelle et dont la première phase est close. Il y aura certainement une autre phase qui va se construire. Il y a des choses comme ça qui ont besoin de plus de temps pour peut-être s'affirmer. Alors, qu'est-ce qui s'est exprimé dans ce mouvement? Donc, c'est une prolongation de la mobilisation de 1995-2003. Il y a aussi une certaine radicalité par des blocages avec, dans certains secteurs. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont pensé à mai 68, mais bon, c'est un parallèle qui est peut-être osé. Je pense qu'on pourra peut-être en reparler après.
Vous pouvez télécharger d'ailleurs l'émission d'il y a trois semaines sur le mai, la comparaison avec le mai rampant italien, plus qu'avec le mai 68 français. Donc une série, l'idée c'était qu'on allait plus s'engager dans une série de confrontations un peu latentes avec le pouvoir qui allait durer plus longtemps que ce que ça a duré pour mai 68, en un mois, grève générale, etc.
Mais bon, ce qui a surtout exprimé là, c'est, enfin, qui a existé, c'était la conjugaison donc d'une certaine radicalité, de l'unité et de l'auto-organisation. Ça, l'aspect auto-organisé, c'était novateur par rapport à 95 et 2003. Mmh. Il y a beaucoup de personnes qui ont monté des actions dans leur coin, des actions de blocage, qui ont pris des initiatives, etc. On a eu aussi un front politico-social dans les mobilisations qui était assez large, et ça aussi, c'est nouveau. Peut-être qu'on peut souligner le fait que, cette fois-ci, une partie de la gauche, qu'on dira sociale-libérale, a soutenu le mouvement. Et donc, l'avantage par rapport peut-être à avant, c'est qu'on n'a pas eu en face de nous le clan de ceux qui savent. Dans d'autres mouvements, on a eu...
On se rappelle
la droite,
du référendum
par exemple,
propos de la Constitution européenne.
Voilà, donc il y a la droite, la gauche sociale-libérale, ceux qui savaient, puis ceux qui ne savaient pas, c'est-à-dire nous, etc. Non, cette fois-ci, on a eu à côté de nous, d'une certaine façon, avec beaucoup de limites, hein, mais une partie de la gauche sociale-libérale qui s'est exprimée d'une autre façon que ses collègues des autres pays, et qui a dû suivre le mouvement d'une certaine façon. Donc ça, c'est aussi un aspect qui est intéressant. Mais on pourra en reparler après aussi, si tu veux. Enfin bon, donc voilà, ça a aussi exprimé une crise politique. C'est aussi quelque chose qui est différent des autres mouvements qui ont existé avant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une grande partie du peuple a dit que le gouvernement en place n'était plus légitime. Qui n'avait pas légitimité, en tout cas, à légiférer sur la question des retraites. Et donc là, c'était quelque chose d'important. C'est une crise politique qui n'a pas encore... qui n'a pas débouché, mais on est passé quand même quelque part, pas loin...
Bon, on va discuter...
Bousculade, quoi.
Ouais. On va discuter, hein, effectivement, c'est le principal intérêt de l'émission d'aujourd'hui, de discuter de ce qui a peut-être manqué pour aller jusqu'au bout dans cette bataille. Mais alors, je reprends la question, puisque le camarade du Parti communiste est arrivé à l'instant. Donc, je disais, est-ce qu'on a face à nous, là, aujourd'hui, une déroute historique du mouvement ouvrier? Allez, sortons les grands mots. Est-ce que par contre, on peut considérer qu'il y a des acquis, mais je voulais éviter toute auto-persuasion qui peut se retrouver par-ci, par-là. Soyons objectifs, disons les choses clairement.
Bonsoir à tous. Je suis encore en train de prendre mon souffle. Hein.
Bon, on va peut-être demander à Christian du NPA qui est arrivé il y a quelques minutes déjà.
Sur ce qui s'est passé, donc... grosso modo, depuis que les grandes organisations syndicales ont appelé à descendre dans la rue, c'est qu'en fait, on est effectivement un mouvement social, mais on a été dans une situation de vide politique de réponse à gauche. Moi, je pense que ça, c'est un des gros problèmes qui s'est posé. C'est
le PS ?
Oui, je pense qu'il y a le fait qu'une force à gauche du PS n'existe toujours pas. Et qu'on a eu un grand vide politique d'une force à gauche, puisqu'en fait, il y a la seule contre-proposition qui a été faite par Martine Aubry et ses amis du Parti Socialiste n'a pas été une contre-proposition qui aille dans le sens d'une véritable évolution de la condition ouvrière, de la condition du salariat.
Pas assez de perspective alors.
Alors je pense que le Parti Socialiste a des perspectives, et la seule perspective, c'est de revenir au pouvoir. C'est ça la perspective. Il n'y a pas de contre-projet socialiste aujourd'hui au libéralisme économique. Je pense que c'est ce qui est relativement grave dans ce qui vient de se passer, c'est qu'on a des organisations syndicales qui n'ont surtout pas voulu faire en sorte que ce gouvernement soit renversé. Parce que je pense que le problème de fond, il se trouve bien là. C'est-à-dire qu'on est face, effectivement, c'est, je pense, en partie vrai ce que disait Pierre-Yves, on est face à un gouvernement illégitime, sauf que c'est un gouvernement qui a été élu selon les lois de la République bourgeoise, selon les lois de la bourgeoisie, c'est scrutin uninominal à deux tours, avec majorité au deuxième tour, et voilà. C'est-à-dire que ça, c'est les lois qui nous ont été imposées par la Constitution de 58 et par la victoire de 1945. Mais aujourd'hui, on n'a pas été dans une situation où il pouvait y avoir la mise en place d'un contre-pouvoir effectif, c'est-à-dire les bases effectivement d'un changement radical de cette société. Oui. Alors, si on attend tout,
je te coupe parce qu'on va développer ces sujets-là. Mais alors, selon toi, selon le NPA, est-ce que on est face à une déroute du mouvement ouvrier qui voudrait que la question de l'organisation des rapports entre partis et syndicats, etc.
On est dans une déroute du fait syndical, puisqu'en fait, les syndicats n'ont pas réussi à prendre la mesure des choses et à poser à un moment donné le fait qu'il fallait radicaliser de façon très forte, mais de façon vraiment très forte, la situation. Ce qu'il y a, c'est que la radicalisation qui a eu lieu, c'est une radicalisation qui a eu lieu par endroit, par moment, mais jamais, à aucun moment, on a eu le fait que les grandes organisations syndicales aient appelé à une grève générale reconductible, ce qui était la possibilité de faire céder le pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu, à un moment donné, les raffineries qui se sont mis en grève. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une raffinerie dans le sud de la France qui s'est mise en grève, à Marseille. C'est le port autonome de Marseille qui a été en grève. Qu'est-ce qui s'est passé? On a l'impression que les grandes centrales ont rattrapé le mouvement. Donc voilà, alors je vais laisser la parole aux autres camarades des partis de gauche.
Mais en tout cas, la
position que je pourrais avoir par rapport à ce qui vient de se passer.
D'accord. Hugo, là, pour le parti de gauche.
Ouais, je pense qu'il n'y a pas vraiment de déroute du mouvement sur cette réforme des retraites. Pourquoi? Parce que je pense que dans la tête des gens, le sentiment qui domine, c'est effectivement un sentiment d'échec. Mais c'est le sentiment de dire, voilà, on a perdu une bataille, mais pas la guerre. Et je pense que ça, tout le monde l'a bien compris, qu'on a perdu une bataille, certes, mais pas la guerre. Et d'ailleurs, on le voit tout de suite. Parce que le rythme infernal que prend le gouvernement à la suite de cette réforme des retraites, de remaniement, de nouvelles annonces sur les comptes de la sécurité sociale ou sur le budget 2011, c'est que ça vient fracasser comme ça dans la tête des gens. On vient tout juste de prendre une raclée, qu'on nous en remet une couche et une couche et une couche et une couche. Et je pense pas que ça soit sans limite. Je pense que ça a une limite, ça aura une limite. Et c'est là où on voit que l'histoire, voilà, du vide politique à gauche et d'avoir un projet alternatif, il est vraiment important et essentiel. Et c'est pour ça qu'encore une fois, on l'a fait à plusieurs reprises ici, mais je salue encore les camarades députés du parti de gauche et du parti communiste qui ont déposé un projet de loi à l'Assemblée qui a permis d'être un élément de mobilisation, de dire aux gens, voilà, concrètement, c'est possible de faire autrement, une autre politique est possible. Et là où on divergera, c'est sans doute sur comment on fait en place pour mettre cette politique alternative. J'entends parler de la Constitution de 58 que j'ai déjà entendu parler à la précédente émission, mais je me ferai un plaisir de répondre, et des élections bourgeoises et de tout ce qui s'ensuit. Si on pense que le vote ne peut pas remettre en cause les choses, moi je pense que si la majeure partie des gens veulent remettre en cause les choses par le vote, qu'ils le fassent, et je les incite à le faire, et je pense que c'est possible. Voilà, c'est le combat que je mène au quotidien. Et donc, c'est dans les urnes qu'on verra, je pense, si y a échec ou pas du mouvement. Et je pense que le thermomètre des cantonales de 2011 sera un bon thermomètre de savoir si les gens ont pris acte de ce conflit politique majeur entre le peuple et l'oligarchie au pouvoir ou pas. Je pense qu'il y aura très clairement un vote sanction. Et encore une fois, je le redis, il y a vraiment, oui, une crise de la représentation, une crise de la démocratie dans notre pays. Elle n'est pas nouvelle, mais là, en plus, elle a été mise éclatée au grand jour. Et je pense que, oui, un positionnement politique raisonnable aurait été de mettre en place un référendum et d'appeler l'ensemble des citoyens français à se prononcer sur le projet de réforme des retraites.
Alors, je reprends la parole au bon pour relancer la question avant de la poser à Hugo pour le Parti communiste. Mais rapidement, quelques faits historiques qui pourraient contredire ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, François Mitterrand, en 87, était plus bas dans les sondages encore même que Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Et pourtant, il a été réélu en 88, comme chacun sait. Par ailleurs, pour continuer sur la question de la déroute du mouvement ouvrier, on se rappelle dans les années 80, l'acte d'arrivée au pouvoir de Reagan, ça a été de briser littéralement des grèves, notamment les aiguilleurs du ciel, des dizaines de milliers de personnes licenciées après des grèves extrêmement dures, et le mouvement ouvrier américain ne s'est pas relevé. De la même manière, après des luttes extrêmement dures des mineurs en Angleterre, Thatcher a emporté la mise, et on est aujourd'hui dans une situation en Angleterre, hein, on entend les informations récemment de travailleurs qui se proposent de travailler gratuitement ou presque pour se réintégrer à la vie sociale, etc. Donc on arrivait dans ce qu'en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, dans ce qu'on appelle l'enfer de la classe ouvrière. D'ailleurs, c'était Jean-Luc Mélenchon qui en avait parlé de la sorte. Alors voilà, donc après, avec ces quelques éléments, je repose la question. Est-ce qu'on est face à une déroute telle que l'ont connue les salariés des États-Unis et du Royaume-Uni il y a quelques années?
Alors, pour le Parti communiste, ben...
Non.
Non, mais tout simplement parce qu'on n'est pas dans la même situation, en fait. Mm-hmm. J'ai envie de dire, on verra, et je l'espère pas. Après, bon, les camarades, entre nous, on savait, ça allait être dur. Bon, c'est dur. Ben, on le sait, mais on n'a pas baissé les bras, quoi. Genre, on va continuer. Je pense que là, en gros... On a montré quand même une capacité de rapport de force. Genre, on n'était pas ridicule. Même les dernières manifestations, on n'était pas ridicule. Bon, alors, non, je suis pas autiste. À mon avis, et c'est pas à mon avis, c'est nous avons perdu là pour le moment. Mais la bataille n'est pas terminée. Donc, on va. Voilà, vous m'entendez bien, ça, tout va bien. Voilà, donc, moi je disais simplement que la bataille n'est pas terminée. Je pense qu'on va continuer. Après, ce sera pas que simplement sur les retraites. Je pense que ça va pas s'arrêter là. Après, c'est pas que l'action des urnes non plus. Je pense que. Les élections, l'ensemble des échéances qui vont arriver, je pense notamment aux cantonales qui sont dans quelques temps, mais tous les autres échéances qui vont arriver, hein, puisqu'il y en a d'autres, 2012, mais il y a aussi 2014. Hein, si en 2012 ça se passe pas bien pour nous, ça ne veut pas dire qu'on va baisser les bras pour autant. On est dans un mouvement dans lequel nous faisons de la politique et dans lequel il faut conscientiser, il faut permettre aux gens de prendre conscience et de quelque part de se saisir des armes et des moyens dont ils ont à leur disposition. Alors, ça va par les manifestations, ça va par les organisations. Alors, j'entends toutes les limites sur nos organisations et les organisations syndicales. Bah oui, elles existent. Mais très honnêtement, faisons pas comme si, en gros, les gens étaient tous autistes, quoi. Genre, parmi nous, il y a des syndicalistes dans nos organisations politiques. Et on est tous en capacité d'observer aussi les limites. Et il y a des choses qui sont en train de se développer. Enfin, je sais pas, je suis en réunion avant-hier, je crois, avec... là plutôt avec des militants associatifs dont certains sont syndiqués et d'autres pas, et en train de regarder toutes les formes pour développer notamment des formes d'organisation pour les salariés isolés. Bon bah voilà, et des réflexions comme ça, il y en a partout. Je sais que ça existe, je sais que la CGT de Lille se pose s'est donné une priorité pour cette année sur les salariés dans le monde associatif. Bah, c'est intéressant parce que c'est pas là où il y a le plus de syndiqués. Bon voilà, donc quand même, il y a une remise en cause qui est faite dans les institutions syndicales et politiques. Il y a un mouvement social qui est quand même pas mal, quoi. Enfin, je veux dire, moi, s'il était tout le temps comme ça, honnêtement...
Alors, visiblement, voilà. Pour aller dans le sens de ce que tu dis, il y a eu aussi pas mal d'adhésions dans les syndicats, de nouvelles adhésions, de politisation, conscientisation, etc.
Oui, et ça peut pas porter des germes tout de suite. Enfin, je veux dire, ça va pas se voir immédiatement. Je veux dire, on connaît l'état des organisations. Enfin, je veux dire, je veux pas ici recenser le nombre d'adhérents qu'il y a dans chacune des organisations, que ce soit au Parti communiste ou NPA. Enfin, je veux dire... Enfin, voilà, je parle même pas des proportions, mais tout confondu, de toute manière, malheureusement, nous ne pesons pas suffisamment lourd. Et les organisations syndicales, c'est la même chose. Cependant, on voit qu'il y a quand même des choses qui ont germé. Il y a des nouveaux syndicats, des nouvelles sections syndicales qui naissent dans des entreprises. Ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Des syndicats, là, par exemple, je pense aux copains de Transpol qui font des déjeuners le midi pour permettre à des salariés de se retrouver, parce que le soir c'est pas évident, qu'on a des gamins, etc., qu'on n'a pas les mêmes horaires, parce qu'en fonction des lignes de bus dans lesquelles on est, vous voyez, et voilà, ça c'est intéressant, c'est des petites initiatives. Alors on peut ne pas les regarder, ou alors on peut simplement tout balayer d'un revers de manche et puis dire bon bah non, c'est foutu, on va pas y arriver. Moi j'y crois pas du tout, je pense qu'au contraire on est dans une bonne dynamique qui va donner des fruits, et je pense que les élections cantonales qui vont venir aussi, ce sera un outil supplémentaire et un moyen pour faire de la politique. On va aller voir les gens. Moi je crois pas que tous les je le souhaiterais, hein, mais je suis pas sûr que aux prochaines élections tous les départements de France deviendront des départements avec des présidents front de gauche, hein, je veux dire communistes ou parti de gauche.
Bon, ce serait pas mal déjà.
Peut-être mais, plus large d'ailleurs.
Peut-être plus large aussi, bah, bien sûr. Mais bon, en tout cas, ce sera une nouvelle étape pour nous. Et la question des retraites, on la continue. Puis je fais quand même, peut-être ça a été dit, je ne l'ai pas entendu, mais je rappelle aussi quand même la pétition lancée par Politis pour faire valoir le droit à un référendum. Voilà, je pense quand même que c'est quelque chose d'important sur lequel aussi on peut s'appuyer. Quoi. Voilà.
Bien, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve après donc, pour savoir ce qui a manqué au mouvement pour aller jusqu'au bout.
Ce soir, nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre. Le soleil n'y entrera plus, tu ne m'aimes plus. La
chanson d'Hélène avec un petit Larsen à la fin, c'était Romy Schneider et Piccoli, et c'est bien Mais que fait la gauche, comme les jeudis une fois toutes les deux semaines, de 19h à 20h. On était avec nos invités du Parti communiste, du NPA, des Alternatifs et du Parti de gauche. On discutait eh bien, de cette dernière séquence sociale, politique, du mouvement contre la réforme des retraites. Alors, donc, Ce n'est pas une des routes. On a eu quand même la tête de Woerth, finalement. Personne ne l'a dit ici. Personne non plus ne s'est exprimé sur cette journée du 23. Alors peut-être en quelques mots, revenir là-dessus. Hein. Le 23, qu'est-ce qu'on en attend ? À quoi on appelle ?
Question pour le NPA. Je sais, là, j'ai mis en cause tout à l'heure les grandes centrales syndicales, mais je vais continuer.
Allez, c'est le moment.
Bah oui, à quoi ça sert de faire à nouveau une journée le 23 novembre ? Bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire à la droite, mais regardez, nous sommes toujours mobilisés, c'est faux. On sait très bien que lors de la dernière manifestation, le 6 novembre, il y a eu moitié moins de personnes dans la rue. Voilà, le fait est, c'est pour ça que j'ai parlé d'échec tout à l'heure, on est dans une situation, la mobilisation que nous aurions pu espérer n'a pas eu lieu, et la radicalisation qui aurait dû avoir lieu n'a pas été voulue et n'a pas été entamée par les grandes centrales syndicales. Mmh. Alors, le 23, là, ça veut dire qu'on va se retrouver... vous savez, c'est un peu comme, comme disait un militant de chez nous, ça va être une procession supplémentaire. Ça, ça pose quand même un sacré problème. Si on veut effectivement que les choses changent, ce n'est pas à travers des journées d'action que les choses pourront changer. Mmh. C'est un des soucis qui peut exister. Ensuite, quand tu dis comme quoi c'est pas une défaite, bon, c'est pas une déroute. Nous n'avons pas eu la peau de Woerth. Enfin, je veux dire qu'il faut quand même être sérieux. Qui est-ce qui est la peau de Woerth? Ce sont les journalistes indépendants en dehors des grands groupes médiatiques qui ont été amenés à poser le problème de ce qui peut exister quand la droite est au pouvoir, c'est-à-dire où on mélange les intérêts privés avec les intérêts privés, parce que c'est même pas avec les intérêts publics, c'est entre privés que ça se passe. Mmh. Et donc ce sont les journalistes indépendants qui ont réussi à faire en sorte, et des journalistes liés à des grands groupes de presse, hein, pas seulement d'ailleurs, hein, les gens du Point sont comme liés à un grand groupe de presse, et ce sont des journalistes qui ont fait en sorte de faire ressortir l'affaire. L'affaire Karachi qui est en train de sortir aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Hein. Donc Woerth n'a pas été... Militants de gauche qui étaient dans la rue qui ont mis dehors Woerth, c'est la presse qui a fait en sorte de faire son travail pour une fois, et une partie de la presse. Ensuite, sur la situation, quand on dit que ça n'est pas une défaite, je pense que le 23, ça va être la preuve qu'en tout cas, ça n'est ni une défaite ni une déroute, mais que ça pose problème. Parce qu'on n'aura pas 2 millions de personnes dans la rue. Si on avait été dans une situation de mai 68 rampant, comme en Italie, comme tu disais tout à l'heure, on aurait eu à chaque manifestation ou un nombre identique de manifestants ou un nombre croissant de manifestants. Or, ça n'a pas été le cas. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer. Je précise bien. Hein, ça veut dire qu'il faut qu'on continue à se mobiliser, qu'il faut qu'on continue à se battre. Mais j'en suis désolé pour mes camarades du Parti de gauche et du Parti communiste français. Je ne vois pas en quoi les cantonales de 2011 vont changer profondément la donne dans ce pays par rapport aux droits des salariés.
Alors, avant de poser la question « que faire cher au NPA » et qui était cher aussi à LCR avant, sur la question de la journée du 23, quoi. Donc, un enterrement
Je fais une petite parenthèse sur...
Hugo, pour le Parti de gauche.
Pour le Parti de gauche, je fais une petite parenthèse. À aucun moment, nous n'avons dit que les cantonales inverseraient le rapport de force et permettraient un grand chambardement. Je pense que là, on est plus dans le procès d'intention qu'autre chose. On a juste dit que les cantonales pourraient être un bon thermomètre, encore une fois, pour voir s'il y a une concrétisation dans les urnes du mouvement social, et c'est-à-dire une concrétisation politique du mouvement social. Parce que chaque fois, on analyse qu'en 68, bah oui, il y a un grand mouvement social, puis c'est la droite qui gagne derrière. Je pense que là, il y a un problème de perspective politique. Et nous, on essaye de répondre, peut-être modestement, mais on essaye de répondre à ça. Et je pense qu'il faut arrêter de nous faire le procès de vouloir répondre à ces attentes-là.
Alors, le 23, ça sert à quoi?
Ben, je pense que le 23, je pense pas que ce soit une bonne date, notamment dans la façon dont elle a été définie. Où il y a l'intersyndicale qui s'est réunie, qui a dit « Ah, faut pas faire une date tout de suite, mais faut pas faire une date trop loin, alors ce sera entre le tel et le tel, ça a tardé avant... »
On rappelle aux auditeurs qu'il n'y a pas d'appel à la grève nationale, ni appel à manifester de façon nationale.
Ouais, non, mais voilà, donc il y a eu un flou de par l'intersyndicale qui a jeté un flou sur tout le mouvement et sur tous les gens. Moi, le premier, se dire ah, bah, alors c'est quand la prochaine date? On voit rien dans la presse, rien dans le journal, et puis on voit que cette date arrive. Alors je pense que bon, elle est là, autant s'en saisir et continuer à mobiliser les gens, parce que moi je pense que ça sera toujours une bonne base pour la suite des événements. Et je suis vraiment convaincu qu'il y aura une suite des événements, et que la retraite, la mobilisation sur la retraite n'est qu'une étape vers une mobilisation qui sera d'une ampleur beaucoup plus grande. Voilà, quand on voit ce qui se passe effectivement en Angleterre en ce moment, où il y a des milliers d'étudiants dans la rue suite au triplement des frais d'inscription, voilà, on aura des attaques sociales aussi franches en face de nous. Alors, sans doute pas sur les étudiants, je suis pas vraiment sûr, mais je pense qu'on aura tout un tas de bonnes raisons de continuer à se mobiliser. Alors, utilisons cette date du 23 novembre autant que possible pour continuer à maintenir l'ébullition, on va dire.
Pierre-Yves, des alternatives.
L'avantage de cette date du 23, c'est de poursuivre l'unité et de continuer à travailler avec les éléments modérés, les composantes modérées.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'une composante modérée?
Les composantes modérées, bon, ben, sont certains syndicats ou certains partis politiques qui, habituellement, n'auraient pas exprimé cette radicalité, enfin, une certaine radicalité autour de ce mouvement, et qui se sont là posés, quand même, fortement en opposition à un système. Alors, quand on regarde le cas de page, par exemple, du Parti Socialiste, avec des propositions, on s'aperçoit donc que eux continuent à dire certaines choses qui rentrent en contradiction avec le message qu'ils essayent de laisser passer par rapport à la retraite, hein, c'est-à-dire que ils se sont affichés, ils ont été poussés, bousculés, et donc ils ont dû s'afficher un peu plus à gauche qu'ils ne le sont. Mais pour l'instant, ce qu'ils disent sur le fond, c'est pas une remise en cause de ce qui amène à la remise en cause des retraites, etc. Mm-hmm. Quoi. Donc là-dessus, c'est il faut continuer
de,
voilà.
C'est un intérêt de continuer avec, de travailler avec,
oui. Oui,
avec,
ça, ça
avec des modérés qui finalement n'ont pas servi à grand-chose.
Oui, ça a un intérêt de continuer à travailler avec face à des millions de personnes qui, à un moment donné, ont pensé que l'unité, c'était quelque chose mm-hmm. d'intéressant. Bon, après, moi, je continue à dire aussi que une grève générale, ça se construit et ça se décrète pas et c'est difficile à faire. Et il faut aussi entendre que dans certains endroits, dans des petites boîtes, prononcer le mot grève, c'est quelque chose de difficile aussi. Hein, c'est aussi des exclusions, c'est aussi des choses comme ça. Enfin, c'est pas simple comme chose. Donc, je ne dis pas qu'il faut pas pousser le mouvement. Je ne dis pas qu'il faut pas aller dans une certaine radicalité. Je dis simplement qu'il faut le faire ensemble et qu'il n'y a que comme ça qu'on garantira beaucoup de choses et notamment une certaine solidarité.
Alors je voudrais attaquer la question de la stratégie du mouvement par le biais suivant, c'est-à-dire j'ai vraiment l'impression que les syndicats étaient pris entre la nécessité de radicaliser face à un pouvoir qui ne faisait aucune concession, on l'a bien observé tous, et l'autre nécessité qui était de rester populaire, hein, absolument. D'ailleurs ce deuxième élément a réussi puisque à la fin du mouvement il y a 70% de la population qui soutenait les grévistes. Donc finalement, est-ce que ces deux nécessités ont fait que les syndicats n'étaient pas à la hauteur, parce que ils auraient dû s'engager dans des blocages beaucoup plus actifs, beaucoup plus massifs, beaucoup plus efficaces, et finalement par la peur de perdre la popularité du mouvement, ils ont levé le pied et ne sont pas allés jusqu'au bout. Bon, c'est un élément d'analyse, j'aimerais bien qu'on en discute un petit peu là. C'est peut-être, je vais peut-être laisser la parole à Hugo, puisque dans le tour de table, c'est celui qui n'a pas encore parlé.
Oui, il y a plein de choses à dire. C'est pas comme s'il y avait une situation et on n'est pas non plus dans un système. Enfin, je peux parler d'inflexion manichéenne, quoi, simplement pour dire oui ou non. Face à
Alors,
ça, en plus,
ni oui ni non.
Non, mais c'est. Au-delà de ça, en gros, moi, ce que je voudrais dire, c'est que d'abord, je salue le chapeau à tous les copains qui... moi, je suis pas cheminot et je travaille pas non plus dans une raffinerie, quoi. Et j'ai pas fait 3 semaines d'affilée de grève. J'étais présent à chaque manifestation. Voilà, et comme beaucoup de salariés, j'ai jonglé, j'ai fait une fois grève, une fois une journée de congé, etc. Enfin, j'ai essayé d'alterner.
Alors, pour préciser la question quand même, est-ce que les directions syndicales ont été à la hauteur de secteurs militants tels que les cheminots, tels que les ouvriers des raffineries qui, eux, ont poussé la confrontation au niveau où il fallait la pousser?
J'ai compris la question. Simplement... je constate, comme les organisations syndicales et je pense comme les directions des centrales syndicales, que c'est loin d'être si facile que ça, quoi. Comme l'a dit Pierre-Yves, c'est pas si facile que ça que de faire grève. C'est pas si facile que ça de savoir ce qui va se passer. Moi, un jour, je veux dire, à mon boulot, je pensais qu'on allait partir à 5 manifester. Et je suis parti tout seul. Bon, 5 pour mon boulot, c'est beaucoup. Voilà, et j'étais le plus souvent tout seul. Bon, mais c'est qu'un exemple, hein. Mais derrière, enfin, moi, ce que je regarde dans mon boulot, bien sûr, c'est pas représentatif de partout. Enfin... ça représente quand même beaucoup de lieux, quoi. Mmh. Et je crois que c'est aussi ça. Ils sont aussi conscients de leurs propres faiblesses. Chacun a essayé aussi de dire, derrière, entre le discours qu'il pouvait y avoir pour la majorité des personnes et quand, que ce soit Bernard Thibault qui s'adresse à la télévision, aux téléspectateurs, dont la majorité ne sont pas syndiqués, qui sont dans des boîtes parfois isolées ou qui n'ont pas de travail et qu'ils n'ont jamais... Et il n'y a personne qui va taper à leur porte pour leur dire « Vous venez manifester avec nous demain ?» Alors, je ne dis pas qu'il n'y avait pas des militants... de partout qui diffusaient à la sortie du métro, mais ils n'ont pas touché tout le monde, et ben, il sait derrière qu'il faut qu'il soit entendu, compris, et quelque part qu'il capte l'adhésion des personnes qui rencontrent pas de syndicalistes près de chez lui tous les matins, quoi. Donc, et derrière ça, il y a aussi au sein des organisations, par contre, un autre discours qui est de dire, bon alors, quelle stratégie on va se donner, comment on va faire pour faire un coup de force, quoi. Et donc, je dirais pas qu'il y a deux discours, simplement, on essaie aussi de s'adapter en fonction de la personne à qui on s'adresse. Et ça, on est tous comme ça, enfin, soyons clairs, quoi. On va pas faire la morale aux gens qui se bougent.
Tu sembles dire qu'il y avait pas la possibilité d'aller à un blocage plus ferme, finalement. Et pourtant, il y a eu un débat qui a été lancé à peu près à la fin du mouvement, bon, on va dire il y a 2-3 semaines. C'était le moment où on a commencé à créer des caisses pour soutenir les grévistes, notamment les ouvriers des raffineries, etc. Et alors là, il se profilait un truc qui pouvait être assez intéressant, c'est-à-dire des ouvriers qui, eux, pouvaient mettre la France, c'est-à-dire le MEDEF à genoux, tout en étant financé par les autres salariés par le biais de caisses de grève. Si la raffineur bloquait pendant un mois jusqu'à Noël, comme le leader de la CGT l'avait annoncé, le MEDEF aurait sans doute bougé. Et on pouvait imaginer que par le biais de ces caisses de grève, l'impact économique sur les salariés aurait été moins important. Donc il y a un petit débat comme ça qui s'est lancé, caisse de grève, pas caisse de grève, etc. Et c'était quand même, c'est peut-être un enseignement pour l'avenir qui peut être intéressant.
Mais question pour le NPA, je pense qu'il y a une situation quand même qu'on a pu constater, c'est que on a été dans une, à aucun moment, les grandes centrales syndicales n'ont appelé à une grève reconductible, à aucun moment. Alors moi je veux bien entendre ce que dit Pierre-Yves hein, quand il dit une grève générale ça ne se décrète pas. Tout à fait d'accord Pierre-Yves, tout à fait d'accord. La seule chose c'est qu'il y a des stratégies qui peuvent se mettre en place. Ce qui vient d'être dit par Jean-Jacques à l'instant concernant les raffineries, ça fait partie des stratégies qui pouvaient être mises en place de suite. Et moi, le sentiment que j'ai, c'est que les grandes centrales syndicales n'ont pas voulu aller effectivement au rapport de force, qu'elles aient fait en sorte que la droite allait être en très grande difficulté. Je pense que c'est ça le problème de fond. Quand on entend Chérec l'autre soir, juste après la nomination du grand cirque à nouveau, avec le même Premier ministre, on entend Chérec qui nous dit « Oui, mais seulement M. Sarkozy a déçu les salariés. » Mais Chérec, il se fout du monde. Excusez-moi, Chérec se fout du monde. Il avait la possibilité de faire plier le pouvoir, de faire plier Fillon, de faire plier Woerth, de faire plier Sarkozy, et il ne l'a pas fait. Bon, sur la situation des grandes centrales syndicales, moi, j'ai quelque chose qui m'inquiète, c'est que j'ai cru entendre comme quoi il fallait que les grandes centrales syndicales ne déçoivent pas. Attendez, le problème, c'est que les grandes centrales syndicales, l'objet, c'est pas qu'elles fassent des adhérents. L'objet, c'est qu'elles défendent les intérêts des salariés. Et défendre les intérêts des salariés, vous ne vous rappelez peut-être pas ce qui s'est passé il y a un certain nombre d'années, mais quand les salariés d'une union locale, en l'occurrence à l'époque, c'était la CFDT qui était à l'époque un syndicat combatif et un syndicat de gauche, sont allés, des salariés sont allés manifester devant l'union locale de la CFDT parce que la CFDT demandait que la loi soit respectée pour la fermeture d'un magasin le dimanche. C'est-à-dire que ça, c'était poser des actes. Et c'était poser des actes contre, entre guillemets, non pas les intérêts des salariés, mais contre les intérêts des patrons. Parce que c'était les intérêts des patrons, l'ouverture des magasins le dimanche, et pas les intérêts des salariés. Et donc, les centrales syndicales avaient effectivement à ne pas décevoir les salariés, mais ne pas les décevoir en faisant en sorte que le combat soit effectif et que la victoire soit effective. Et ensuite, en termes de victoire, moi j'aimerais savoir, la victoire, si celle de demain, c'est celle du Parti Socialiste, ça me fait peur, camarade. Parce que ce sera exactement le même programme qu'aujourd'hui.
Pierre-Yves, alors.
Moi, ce que je voulais dire, c'était simplement que ce qui était intéressant dans ce mouvement, c'est que c'était une combinaison de différentes choses. Donc avec des temps forts, avec des grèves, avec des blocages, avec des petites sortes de guérillas par-ci, par-là, etc. C'est-à-dire qu'il était construit avec ce que pouvaient donner les personnes et avec ce que pouvaient donner aussi les syndicats. On est dans une logique où on doit faire avec ce qu'on a. Et on a fait là beaucoup avec ce qu'on avait. Et c'était déjà ça très intéressant. Je pense qu'il faut retenir...
On ne pouvait pas faire plus.
Peut-être qu'il y aurait pu avoir un basculement. Je pense qu'à un moment donné, il y avait quelque chose... Il y a effectivement... On a senti à un moment donné, donc quand on remettait en cause la légitimité du pouvoir, je pense que là, il y aurait peut-être eu un petit coup de pouce à donner davantage et qui aurait peut-être dû émaner de certaines centrales, effectivement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est cette combinaison des choses qui est novatrice, et c'est peut-être comme ça qu'on pourra peut-être continuer d'avancer, aborder les prochaines phases de ce mouvement.
Mmh. Hugo, pour le Parti de gauche.
Il y a plusieurs choses qui m'interpellent là dans la discussion. J'entends dire que les syndicats n'ont pas pour objet de faire des adhérents, mais de défendre les intérêts des travailleurs et des salariés. Je pense que c'est pas à mettre en opposition ni en contradiction, bien au contraire, et qu'une partie du rapport de force et de la légitimité qu'ils peuvent avoir, c'est sur celui du nombre de personnes qu'ils arrivent à aligner en rang qui pensent la même chose. Hein. C'est d'ailleurs un rapport de force, on va dire, démocratique. On a une majorité de la population qui veut telle ou telle chose, et on pourra en découler de là à la souveraineté populaire. Non, je pense que le vrai problème, là, c'est pas que les centrales syndicales n'aient pas été à la hauteur dans un sens ou dans un autre. On est confronté à un problème politique, à un problème de représentativité, un problème d'orientation politique dans ce pays. Donc c'est pas les syndicats qui font l'orientation politique de ce pays, ils défendent les intérêts des travailleurs. Et donc c'est que le problème, c'est que c'est la gauche qui est pas à la hauteur. C'est la gauche qui est pas à la hauteur. Et c'est pour ça que pour répondre à cette crise politique...
Mais que fait la gauche ?
Et que fait la gauche ? Pour répondre à cette crise politique majeure, il faut se mettre au boulot, il faut se mettre autour de la table, rédiger un programme qui soit une véritable alternative, concret, qu'on puisse mettre en place. Voilà. Et on a déjà commencé avec le Parti communiste et la gauche unitaire. Mais j'ai envie de dire, camarades du NPA plus précisément, qu'attendez-vous pour nous rejoindre ? Effectivement, si c'est le Parti socialiste qui gagne, ce sera pareil que la droite, quasiment pareil. D'accord, alors qu'est-ce qu'on fait ? On se regarde de loin et on se pinaille, ou on se met autour de la table et on avance, et sur un vrai projet alternatif. Moi, je suis un peu... ça me fait doucement rigoler quand Olivier Besancenot à la télé dit « C'est quoi qui vous différencie avec Mélenchon ?» Il dit « Bah, c'est notre rapport aux institutions, nous on pense qu'il faut tout chambouler du début à la fin. » Mais nous aussi, on pense qu'il faut tout chambouler du début à la fin. On appelle ça la révolution citoyenne chez nous. Voilà.
Bien, là-dessus, on va s'écouter une chanson de circonstance de Carmen Maria Vega qui s'appelle « Les gens sont gentils ».
Même si c'est pas vrai, on ferait comme si on simulerait, histoire de te remonter le moral, parce que t'as l'air fané, tu sais, des fois vaut mieux aller de l'avant, laisser parler les médisants, les fachos, les jamais contents, faut se dire même si c'est du vent,
les gens sont gentils.
C'est comme l'autre fois avec Bobette, on se baladait, on faisait rien de mal, jusqu'à ce qu'il se fasse traiter de tapette. De petits pédés, de grosses pédales, alors du coup on est parti, on a tracé, on n'a rien dit, sinon on la laisse faire taper dessus. C'est comme ça, c'est la vie. Donc des fois je me demande à quoi ça sert tout ça. Juste avant que mes nerfs se tendent, je chante ça. Ça.
Les gens.
Qu'est-ce qui se met à t'aimer, t'auras ton nom dans un cimetière, et moi je serai arrière-mémé, parce qu'un con ne change pas, ou tout doucement du bout des doigts, on s'en fout, on n'est pas pressé, ça prend du temps tout ça. Si des fois tu te demandes à quoi ça sert tout ça, juste avant que tes nerfs se tendent, rappelle-toi que, rappelle-toi que.
Rien du tout. Oui, alors on s'attendait à une chronique qui allait se lancer, mais finalement, eh bien, on reprend le fil de la discussion. Oui. Oui. Bon, on l'écoute alors.
Sarkozy est heureux. Il est remonté à 32% d'opinion favorable. Quel talent! Loin de traduire une grande réussite, ce sondage pour Le Figaro montre le rejet du président de la République qui s'est installé dans la population. Difficile pourtant d'interpréter ce rejet. La conscience politique des salariés a-t-elle réellement évolué ces derniers mois avec le mouvement contre la réforme des retraites? Constitue-t-il un tournant politique comme a pu l'être la mobilisation contre le CPE? Avec un tel rejet du gouvernement et un mouvement massif dans la rue, probable qu'une prise de conscience ait pu se produire. De l'apathie politique ressentie depuis 2007, octobre a pu faire émerger la possibilité de gagner un bras de fer contre Nicolas Sarkozy. Si la base du mouvement était de gagner sur les 60 ans, alors cette mobilisation se solde par un échec. Pour autant, cette prise de conscience constituerait un acquis de ce mouvement ? Difficile de l'évaluer. Les collectifs retraites n'ont pas impulsé de nouvelles dynamiques, et la conscientisation pourrait laisser place à une nouvelle forme de fatalisme. Malgré 2 mois de lutte intensive, le mouvement social ressort plumé et même la CFDT n'a rien dans sa gamelle. Remaniement, défaitisme syndical, primaire au PS et création de nouveaux collectifs Front de Gauche, salut camarades, on se revoit en 2012. Or nous présentions la mobilisation comme décisive dans la bataille présidentielle, comment ça va donc se traduire ? Le PS n'est pas parvenu à incarner la gauche utile, c'est-à-dire la représentation politique de ce mouvement. La gauche de la gauche, encore une fois dispersée, ne semble pas encore en mesure d'incarner un prolongement crédible à ce mouvement. Finalement, le fatalisme et l'abstention qu'il pourrait susciter pourraient profiter en premier lieu au Front National, friand de ce type de situation. Nous ne sommes pas encore en 2012. Et pourtant, le positionnement de la gauche vis-à-vis de l'échéance présidentielle est décisif pour faire exister une alternative politique. Et cette alternative sera indispensable pour tout nouveau sursaut social d'ici là.
Alors c'était une contribution du blog Gauche 2, alors le chiffre, pas le mot, gauche2gauche.blog.lemonde.fr que vous pourrez retrouver facilement sur internet. Contribution donc qui appelle une discussion bon rapide, vu l'heure, sur les perspectives politiques. Alors est-ce que le FN reste tapis en embuscade et la voie lui serait tout ouverte? Est-ce qu'on peut considérer que dans cette séquence politique, bien la gauche de la gauche, celle qui est représentée ici, a montré sa désunion. Voilà, sujet dont qu'on a un peu évoqué, et puis même dans les discussions, dans le niveau de débat ici, on a pu tirer peut-être quelques enseignements déjà. Alors, qui voudrait se lancer là-dessus, Pierre-Yves ?
Après la dernière manifestation, il y avait un sondage dans l'Humanité qui était très intéressant, l'Humanité Dimanche, où on parlait donc des 70% de personnes qui rejetaient donc cette réforme. Et après, on interrogeait les personnes sur savoir en qui ils avaient confiance pour remettre les choses comme ils avaient envie, quoi. Hein. Et personne à leurs yeux n'était en capacité. Que ce soit donc à l'extrême droite que tu nommes, mais aussi bien les partis qui prennent l'alternance et aussi bien donc la gauche radicale. Hein,
L'extrême droite n'apparaissait pas plus populaire après ça.
Non. Par contre, moi, ce que je peux dire aussi, c'est que ce mouvement tel qu'on l'a connu, c'est un mouvement qui est quand même potentiellement anticapitaliste. Et ça, c'est intéressant. Et ça fait partie de cette conscience qui est en train de se construire et qui va continuer à se construire à partir donc du référendum sur le traité constitutionnel. Donc en fait, on est dans une phase là où il y avait des personnes qui étaient en train de défendre une certaine richesse collective. Et là, d'autant plus que cette richesse collective, elle avait des répercussions directes hein, sur un futur qui les touchait directement. Mmh. Et donc là, on n'était pas encore dans une phase de construction de quelque chose de nouveau, avec la mise en place de perspectives. Et c'est peut-être là nous, on manque le coche. Nous, la gauche de gauche, où on n'arrive pas à construire ensemble quelque chose où les gens diraient, ben oui, on a envie d'aller vers ça. Mais par contre, les gens ont bien compris qu'ils ne voulaient pas de ce qu'on était en train de construire pour eux et que ça, c'était quelque chose qui était construit sur le mode libéral, du libéralisme.
Christian, pour redonner une perspective collective auquel on ne croit pas encore.
Sur l'extrême droite, je dirais comme Pierre-Yves, hein, l'extrême droite n'a strictement aucune contre-proposition à faire et ne s'est surtout pas prononcée pendant l'ensemble de ces mois sur quelle position elle pouvait avoir cette extrême droite. Donc, ce qui se passe effectivement, c'est qu'elle n'est pas apparue comme une alternative politique. Par contre, le fait que cette droite n'ait strictement rien cédé, l'extrême droite peut, dans les urnes, dans 2 ans, être dans une situation de récupérer un certain nombre de voix. Ensuite, sur les perspectives, moi, je dirais ce que j'ai toujours dit, je redirai hors micro s'il le faut, ce qu'il faut, c'est constituer une véritable gauche de la gauche, qui sont en rupture effective avec le libéralisme économique, et donc ça veut dire en rupture effective avec le Parti Socialiste, et que cette gauche de la gauche, elle est en capacité de pouvoir présenter un véritable programme, et une capacité de présenter une véritable alternative, avec effectivement, non pas une délégation de pouvoir qui soit donnée à des élus, mais avec la mise en place de conseils de quartier, de conseils d'ouvriers, de façon à ce qu'effectivement, on soit en situation de commencer à mettre en place une véritable société socialiste.
Donc sur les perspectives politiques alors couvre ce mouvement.
Je crois un petit peu comme mes camarades hein, là aussi. Moi je pense que le rassemblement à gauche et une gauche audacieuse, je dirais, est tout à fait possible. La question de la rupture avec le Parti Socialiste, elle se construit aussi également avec la possibilité de rapport de force que chacun apportera dans ce rassemblement. Je veux dire, si les communistes étaient tout seuls, on s'appuierait avec ceux qui seraient là, quoi. Je veux dire, s'il y en a d'autres qui sont prêts à aller dans la bataille et à aller un petit peu partout au service des gens, il n'y a pas de problème pour nous. Je veux dire, en tout cas, aujourd'hui, et notamment le mouvement des retraites a permis aussi de montrer ce qui nous différencie à gauche. Et je pense notamment un vote qui a eu lieu au Parlement européen fin octobre autour d'un rapport sur les préconisations que devaient faire les pays de la zone euro face à la crise, et notamment la fin de la retraite par la fin de la retraite par répartition. C'est ce qui a été voté en tout cas par les parlementaires français socialistes et écologistes. Voilà, donc je tiens quand même à le signaler, ce qui n'était pas le cas apparemment de ceux du Front de Gauche.
Hugo, pour le Parti de Gauche, court mot.
Un très court mot pour le Parti de Gauche. Mettons-nous au travail, que demain on ait une discussion projet contre projet, point par point, avec nos adversaires, qu'ils soient à droite ou au sein de la social-démocratie. Pourquoi le programme commun, au-delà de sa non-application totale, a-t-il gagné ? Parce qu'on avait un élément entre les mains qui nous permettait de dire sur tel point voilà ce qu'on pense, sur tel point voilà ce qu'on pense, voilà ce qu'on veut faire, voilà ce qu'on fera demain. Et c'est ça qui nous manque, et mettons-nous au travail.
C'était Mais que fait la gauche. On se retrouve dans deux semaines. La semaine prochaine, c'est Politphilo qui va réfléchir sur la fin du capitalisme. Comment dépasser le capitalisme. On rappelle aussi le site de Politis qui renvoie toutes les informations pour signer une pétition, enfin un appel pour forcer la rediscussion de la loi et l'appel à un référendum. Bon, je ne sais pas très clair ce que je dis. Allez sur le site.
Il faut 4 millions de personnes. Voilà, il faut que tout le monde signe.
Allez, au revoir, merci.
Au revoir.
Au revoir.